Alors, le titre de la prédication ce matin, ce sera « Ne t'arrête pas en si bon chemin ». C'est tellement important. Et nous allons nous baser sur une histoire un peu curieuse, mais qui, j'espère, nous amènera à méditer par le Saint-Esprit sur ce que Dieu veut que nous en tirions. Deux Rois, chapitre 13. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Et quand il eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et lui dit « ouvre la fenêtre vers l'est ». Il l'ouvrit. Élisée dit « tire ». Alors Joas tira. Élisée dit « c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à les exterminer ». Élisée dit encore « prends les flèches ». Joas les prit. Élisée dit au roi d'Israël « frappe contre terre ». Alors il frappa trois fois et s'arrêta. Élisée, l'homme de Dieu, arrêta et fixa son regard avec insistance. L'homme de Dieu se fut saisi d'indignation contre lui et lui dit « il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer ». Maintenant, tu ne les battras que trois fois. Texte un peu curieux, hein? On a de la peine pour ce roi. Ça aurait pu être mieux, beaucoup mieux. Israël, dont il est question, c'est le royaume d'Israël. Hein? Vous savez qu'après Salomon, le royaume se déchira en deux, la partie au nord, en jaune que vous voyez, donc c'est le royaume d'Israël avec Samarie comme nouvelle capitale, et la partie du sud, Juda, avec Jérusalem. Alors tous les rois de la partie du nord sont tous mauvais, hein. Mais les rois, donc, de Juda, parfois bons, parfois mauvais, eh bien eux, ils sont des descendants du roi David. Alors le père de Joas, Joachaz, régna 17 ans sur le royaume d'Israël, et il est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand Joas prit à son tour les rênes du règne, eh bien il est dit de lui qu'il fit mal. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tous les deux sont des rois qui s'entêtent dans leur rébellion contre Dieu. Alors dans ces cas-là, Dieu est clair, il suscite des ennemis. Et l'ennemi de ces deux rois, eh bien, le même, il s'appelle Azaël. C'est un ennemi qu'Élisée avait oint des années auparavant. Et quand il l'a oint, il a dit « tu deviendras roi ». Il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant. Élisée, l'homme de Dieu, eh bien, arrêta à fixer son regard avec insistance sur Azaël et il pleura. Azaël dit « pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? » Élisée répondit « parce que je connais le mal que tu feras aux Israélites. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras leurs jeunes gens par l'épée. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Ah, quel roi cruel a pris le pouvoir en Syrie et qui va sans pitié mener la guerre contre le royaume d'Israël. Élisée l'a vu, la souveraineté de Dieu lui a permis de voir. Alors, dans notre texte, Élisée est vraiment au bout du bout. Verset 14, il est dit que lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. La maladie n'épargne personne, même les grands hommes, même les grands prophètes de la Bible. Alors jusqu'à présent, ce Joas était plutôt désobéissant, entêté. Et puis, jusqu'à présent, les rois pouvaient consulter Élisée pendant 50 ans. Il y a eu un ministère de 50 ans. Ce qui était pratique parce que quand les situations étaient complexes, on pouvait demander au prophète de faire quelque chose et il le faisait. Élisée a sorti plusieurs fois le peuple de grand danger. Il a été l'instrument de Dieu. Il a été sage dans ses conseils et efficace dans ses prières puissantes comme son prédécesseur Élie. Alors si Élie a fait 7 miracles, eh bien Élisée en fera le double, 14. 14 miracles. Il séparera les eaux du Jourdain, il guérira Naaman, il ressuscitera un enfant, il multipliera le pain pour 100 hommes, et puis il frappera même d'aveuglement toute une armée, l'armée de Syrie, afin que ceci n'est pas la victoire. Et puis, bien sûr, c'est lui qui verra monter son modèle, Élie, donc, voilà, dans le ciel. Oui, je dis ça a failli avoir lieu, mais bon, ceux qui étaient sur Zoom. Voilà, en tout cas, mieux vaut avoir Élisée dans son équipe que contre soi. Alors, ce matin, Élisée va, sur son lit de malade, va être interrompu par Joas. Et nous allons voir, eh bien, l'attitude de Dieu vis-à-vis de ce roi qui est venu chercher réconfort et solution. Et puis, nous allons aussi voir l'attitude de Joas vis-à-vis de Dieu. Alors, tout d'abord, l'attitude de Dieu vis-à-vis de ce roi pécheur. Joas est effondré. Il pleure, littéralement, il pleure sur le visage d'Élisée. Ça veut dire qu'il est... Il est rentré dans la pièce, Élisée était allongé, et son seul objectif était de déverser son cœur et de parler à ce prophète. Alors, il crie, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Alors, c'est une expression énigmatique. C'est l'expression qu'Élisée a utilisée 50 ans auparavant, quand Élie a été enlevé au ciel, il a crié « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Alors cette expression, elle est curieuse, elle signifierait peut-être que Élie, comme Élisée, à eux seuls, valent plus que toute l'armée d'Israël. C'est une valeur sûre dans laquelle on peut investir. Et c'est ce prophète victorieux que Joas est venu chercher. Parce que l'ennemi est là. Lui seul peut assurer la victoire sur la bataille. Lui seul peut enlever la main lourde de ce féroce roi syrien. Cela veut dire que la force des armées célestes était bien avec toi, Élisée. Et toi seul, tu peux faire quelque chose pour nous. Parfois, il y a des situations où on est obligé de pleurer. Parce que c'est tellement... on se trouve tellement dans un étau, et là l'étau est terrible pour Joas, parce que après Élisée il n'y a plus de successeur. Qui va assurer les victoires futures d'Israël? À qui irions-nous? Comment est-ce que nous faisons quand Dieu enlève un tuteur spirituel de nos vies? On se retrouve démunis. Qui est-ce que je vais voir? Qui vais-je consulter? Qui pourra me donner un sage conseil? C'est avec des pleurs que Joas est là. Il est remarquable de voir que c'est un roi jeune, en forme, qui vient jusqu'au chevet d'un malade. Alors, Élisée sait que ce roi Joas n'est pas un bon roi. Et honnêtement, il aurait pu dire depuis son lit, ben, tu l'as cherché et tu l'as trouvé, tes problèmes. Mais Élisée a un cœur selon Dieu, à l'image de Jésus. Vous savez, Jésus sait être compatissant, il sait être aimant, il a pleuré et avec ceux qui étaient dans la détresse et il a pleuré avec tant de tendresse. Mon père, comment ne pas être ému de ce cri d'appel? La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que nous ne sommes pas appelés à maudire nos ennemis, mais quand nos ennemis se trouvent en position de difficulté, nous devons les aider. Et voilà qu'Élisée accomplit la loi de Dieu. Joas n'en dit pas plus. Il ne rentre pas dans les détails. Élisée a compris Il a compris que la situation est grave. Et comme Jésus, il ne fait pas de reproche, il n'y a pas de remontrance en disant « Tu as mal conduit le peuple, alors voilà ce qui t'arrive. » Dieu est touché lorsque même le plus méchant des hommes vient à lui avec des larmes. Vous vous rappelez, il interpelle un jour le prophète Élie concernant Akab. Akab était un terrible roi, vraiment, hein. Sa femme Jézabel, enfin, ils ont mis la pagaille dans ce royaume du Nord de manière absolument exceptionnelle. Et pourtant, un jour, Akab pleure devant Dieu, et c'est Dieu qui fait remarquer à Élie. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, voici, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mon frère, ma sœur, quand nous pleurons devant Dieu, et nous sommes appelés parfois à pleurer devant Dieu, eh bien Dieu récolte toutes nos larmes. Et son cœur de père est touché. As-tu vu comment un tel pleure devant moi? Et nous, peut-être que nous réclamons vengeance sur le méchant, mais si le méchant pleure devant Dieu, eh bien le cœur du Seigneur s'attendrit. Avez-vous entendu ce que ce mauvais roi dit à ce prophète? En fait, il affirme que Élisée est sa solution et qu'il est plus efficace que tout son équipement militaire. Ce vieillard alité, est-ce aussi notre cas? Est-ce que nous faisons confiance au Seigneur? Ou alors est-ce que nous nous reposons encore dans toutes nos capacités, nos relations ou notre savoir? Et parfois le Seigneur émonde nos capacités, il enlève nos forces, il enlève telle ou telle chose, afin que nous puissions venir le voir lui. Et regardez comment il vient au secours d'Élisée. Il le prie, plus encore il le supplie, plus encore il implore. Fais quelque chose. Nos prières doivent être aussi teinté de cette profondeur, teinté de ces émotions chargées. Nos prières devraient être ferventes, car notre besoin de Dieu reste immense et vital. Éphésiens 6, verset 18, c'est ce que l'apôtre Paul dit, « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Alors, au verset 16, il est dit que Élisée dit au roi d'Israël, « Voici, bande l'arc de ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi. Élisée devient le guide de Joas. Le désir d'Élisée, ce grand prophète, ce vieil homme, est de l'accompagner. Vous savez, on a des responsabilités quand on commence à prendre de l'âge, c'est d'accompagner nos plus jeunes. Comment il fait? Il pose ses mains sur les mains du roi. Alors, si on devait se faire une idée de la situation d'Élisée, il est en soins intensifs. Il est malade. Il est très malade. Alors imaginons cet homme qui se lève de son lit, qui peut-être se débranche de ses moniteurs pour aller jusqu'à Joas. Avec des mains tremblantes. Qu'est-ce qu'il fait par ce geste prophétique? En fait, il lui communique non pas ses propres forces, mais il lui communique les forces de Dieu. Il veut dire à Joas, tu peux compter sur ce que Dieu fera. Ça c'est ce qu'il veut faire cela. Il a l'amour des âmes, Élisée. Il aurait pu dire, mon ministère a été tellement rejeté, eh bien que ces Israélites en paient les conséquences. Il va jusqu'au bout, jusqu'à joindre ses mains aux mains de Joas. Il y a là le sens et la profondeur de la prière. Et puis, il lui dit, ouvre la fenêtre vers l'est. C'est pas au hasard qu'il indique la direction de l'Est. C'est là où il y a l'ennemi. C'est pas la mauvaise direction. C'est là où se trouve le puissant Azaël. C'est pas n'importe quel geste. Parfois dans nos prières, vous savez, allez, on prend le feuillet du calendrier le matin, on lit le verset, et puis si on a un peu de temps, on lit le commentaire, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, bénis tout le monde, bénis les malades, bénis ceux qui souffrent dans ce monde, bénis ceci, voilà tout le monde. C'est un peu vague, hein ? Élisée est précis avec Joas. Il dit de le faire avec conviction. On ne prie pas dans le vague, on ne prie pas dans le vide, on ne prie pas n'importe comment. On a besoin de demander à Dieu, des fois, de nous éclairer sur des sujets précis. Quand on n'a pas d'inspiration, demandons au Saint-Esprit de nous inspirer lui. Tiens, je pense à un tel, eh bien, je ne vais pas laisser cette pensée s'échapper, je vais le porter dans la prière. Si je peux lui envoyer un message ou l'appeler, je le ferai. C'est peut-être ça que le Seigneur est en train de nous montrer, d'ouvrir la fenêtre et d'aller dans cette direction, et non pas nous éparpiller dans toutes les directions qui viennent habiter nos pensées. Alors cette fenêtre ouverte, c'est aussi la fenêtre où nous n'avons pas de problème avec le péché. Parce qu'on ne peut pas paraître devant Dieu avec des péchés non réglés. C'est le livre des Proverbes qui dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. » C'est pas ce que nous voulons. Le psaume 109, verset 7, dit même que la prière de celui qui se présente n'importe comment devant Dieu, eh bien sa prière passe pour un péché. C'est sérieux. Combien de chrétiens prient dans le vague en espérant que les choses vont s'arranger? Et là, pas d'exaucement. La fenêtre ouverte, c'est aussi la foi, le pas de foi. Si je prie Dieu, c'est que je lui fais confiance. Je m'attends à lui. Alors, Élisée montre qu'il y a encore de l'espérance pour Israël et pour Joas. Notre expérience devrait servir aux autres pour leur montrer qu'il y a encore de l'espérance. Et quelle belle promesse. Le roi reçoit-il ici? Verset 17. Quelle belle espérance. C'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut. On ne discute pas. Dieu a promis qu'il allait sauver. Joas n'a rien fait. Dieu l'a promis. Alors, bien sûr, là, c'est la région, voilà, où il y a le lac de Galilée avec Aphek. C'est là où sont rassemblées les troupes syriennes. Alors ça, c'est la Transjordanie, la Cisjordanie, pardon, actuelle. Et le problème, c'est que si les Syriens, eh bien, font tomber cette ville, cette forteresse, ils vont envahir tout Israël, le royaume d'Israël, par l'Est. Élisée dit encore, et on verra l'attitude de Joas maintenant vis-à-vis de Dieu, Élisée dit encore, prends les flèches. Et Joas les prit, Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et Joas frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, mais il fallait frapper cinq fois ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que trois fois. Bon, pour les plus optimistes, on dira, c'est pas mal trois fois, hein. Mais bon, c'est pas la totalité, hein. Après la prière de délivrance exaucée, que faisons-nous? Quand nous sommes dans l'urgence des préoccupations qui nous pressent, nous savons chercher le secours. Mais une fois délivrés, une fois notre demande exaucée et la bataille gagnée, eh bien, il reste encore quelque chose à faire. Et c'est là qu'intervient ce deuxième geste prophétique. Et là, j'avoue que c'est plus Joas qui pleure. Nous pleurons avec Élisée, pourquoi tu fais ça, Joas? Hein? Pauvre Joas, pourquoi n'es-tu pas allé jusqu'au bout? Parce que, bon, il n'a pas reçu de consigne, hein. Si Élisée lui avait dit, allez, vas-y, jusqu'à 6 fois, il l'aurait fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler de désobéissance? On peut spéculer, est-ce qu'il a été incrédule? Peut-être que Joas a trouvé ce geste un peu trop stupide. Frapper des flèches pour gagner une guerre, hein. Peut-être qu'il n'a pas pris la parole d'Élisée au sérieux. Il fallait continuer, Joas. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Regardez ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre problème, c'est nous tenons, et quand ça va mieux, nous nous relâchons. Alors, bien sûr, il faut pas, enfin, Dieu demande pas d'être tendu, bien sûr, c'est pas ce que Dieu dit. Mais Dieu dit que cela nous montre que nous pouvons arrêter les bénédictions de Dieu, empêcher une victoire ou faire une demi-victoire. Joab, qui avait si bien commencé, va s'arrêter avant l'ordre de Dieu. Élisée ne lui a pas dit « Stop, maintenant tu peux t'arrêter ». De lui-même, il a décidé. Combien de fois, nous aussi, quand nous commençons quelque chose, eh bien, on décide de nous-mêmes que, bon, on a assez prié hein, pour ce sujet. On a assez porté telle personne. On a assez fait ceci, cela. Nous n'avons que quelques victoires, que la moitié d'une victoire. Bien sûr, il va recevoir 3 victoires. Mais le problème, c'est que par la suite, le peuple d'Israël sera plongé dans des périodes d'angoisse face à cet ennemi menaçant. Mon frère, ma sœur, quelle responsabilité qu'est la nôtre. Ne soyons pas comme Joas, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Regardez ce que dit le psaume 109, verset 17. Il ne voulait pas de la bénédiction alors qu'elle s'éloigne de lui. Joas n'a pas compris qu'il y avait là une bénédiction d'être dans la présence de Dieu, dans ces instants qui étaient les derniers d'Élisée. On a commencé peut-être à témoigner à quelqu'un, on lui a parlé de l'Évangile, on a prié pour lui, on a intercédé, et puis on a laissé tomber, tellement préoccupé d'autres choses. Nous avons une grande responsabilité envers ceux qui périssent. Peut-être avons-nous décidé de prier en famille, on s'est dit c'est une bonne idée. Oh, ça a duré 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après on s'est lassé, plus rien. Peut-être que nous avons décidé de prendre de bonnes résolutions. Nous avons décidé de faire du bien à quelqu'un, et puis devant son caractère, devant son comportement, on s'est dit, c'est bon, je laisse tomber, on s'est découragé. Nous nous contentons alors du minimum syndical. Nous sommes sauvés, c'est bien, et je mène ma vie comme si je n'étais pas au Seigneur. Nous manquons de persévérance. Cela a provoqué la colère d'Élisée. Est-ce que nous nous contentons seulement de tirer l'arc vers l'est, vers l'Orient? Vous savez, l'Orient, c'est, il y a un verset dans dans ce que dit l'ange à Zacharie, hein, dans Luc 1, en parlant de Jean-Baptiste. Eh bien, c'est lui qui montrera qui est Jésus en faisant savoir à son peuple que Dieu a donné le salut et qu'il pardonne les péchés, car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. C'est pourquoi la traduction juste de Darby, là, c'est l'Orient d'en haut nous a visités. L'Est, c'est la visite de Dieu parmi nous. Nous sommes peut-être contentés que de cela. Dieu m'a visité, je suis sauvé, j'ai l'essentiel. Et puis nous avons décidé de garder 3 petites victoires. J'arrêterai mes paroles grossières, j'éloignerai l'ivrognerie et je ne mentirai pas. 3 flèches de victoire, certes, mais qui font de nous des chrétiens moitié vaincus, moitié vainqueurs. Cela nous contente-t-il vraiment? Si oui, alors nous sommes devenus des gens respectables, des gens moraux, que les voisins aiment bien, et non des disciples. Et plus rien ne nous distingue de ceux du monde. Si 3 victoires seulement nous suffisent, alors nous n'avons réellement pas expérimenté les grandes bénédictions de Dieu. Si 3 victoires nous suffisent, c'est comme si nous nous contentions de quelques miettes au lieu d'avoir une vie abondante. 3 victoires qui font de nous de petits chrétiens au lieu d'être des vrais témoins de Jésus, des chrétiens consacrés. Et là, je comprends que la colère d'Élisée, même à mon égard, même à notre égard, serait justifiée. Nos pauses spirituelles, nos petites seulement victoires qui ne vont pas plus loin, nos péchés non confessés, pour lesquels nous n'avons pas exercé d'actes visibles devant Dieu, un positionnement clair affecte notre vie, voire même la vie de notre entourage et de notre lignée. La demi-victoire ou la victoire en demi-teinte de Joas, en fait, lui va la payer, mais le peuple aussi, quand l'ennemi reprendra des forces. Soit nous transmettons à nos générations à venir l'image d'une petite vie chrétienne avec leurs conséquences, soit nous leur transmettons l'image d'une vie consacrée. Et là, le sacrifice est là aussi. C'est une grande vérité inaltérable. Toute action à demi-teinte devant Dieu, tiède, tout péché non confessé et reconnu pour lequel j'ai refusé de me repentir, continue son œuvre dans ma vie. Oh, moi je l'ai oublié, je l'ai mise de côté, mais elle continue dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Ne t'arrête jamais en si bon chemin. Élisée a laissé au roi Joas le soin de décider combien de fois il frapperait le sol avec ses flèches. Joas aurait pu frapper 10 fois en disant « Oui, je fais confiance à Dieu et je m'engage pleinement. » Et là, il aurait eu l'occasion de mener tout le royaume d'Israël à une victoire écrasante. Mais il s'est arrêté en chemin. Le salut de Dieu pour nous, c'est l'œuvre de Dieu. Toujours Dieu qui œuvre le premier. Nous n'avons rien à ajouter. Jésus est mort à la croix parce que Dieu l'a décidé. Jésus a mis nos péchés sous ses pieds, il les a effacés. Nous n'avons rien à ajouter. Les flèches qui étaient destinées à nous atteindre l'ont atteint lui. Nous ne pouvons rien ajouter. Si nous avons accepté cette offre, nous avons reçu la vie éternelle. Mais nous sommes aussi appelés à nous engager encore. Cette fenêtre doit être encore ouverte et ces flèches doivent être encore frappées au sol. Ne t'écarte pas en chemin, ne t'arrête pas en chemin comme pour Joas. Ne dis pas surtout « Ah, si j'avais su, si j'avais su ». Il n'y a pas beaucoup d'écart entre 3 frappes de flèches et 5 ou 6. Ah, si j'avais su. Alors le Seigneur nous encourage ce matin à la persévérance dans notre vie chrétienne. Et c'était aussi le problème des premiers chrétiens. Ah, qu'allons-nous faire maintenant une fois sauvés? Eh bien, continuons à persévérer. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Et je vous laisse avec ces versets. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.